Wow. C'est mieux. Bonjour à tous. Bienvenue ce matin pour ce dimanche. Bienvenue à chacun, les jeunes, les enfants plus grands, les plus âgés. Bienvenue si vous nous suivez également à distance. Que vous soyez bénis et renouvelés. Et qu'ensemble, on puisse cheminer un petit bout de plus dans l'aventure de notre vie avec Dieu, dans l'aventure de l'Église avec Dieu. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, peut-être au ski. Ouais. Pour certains, elles se poursuivent même peut-être encore un peu. C'est quand même une période un peu particulière, ces vacances, pour les enfants surtout. Mais il y a toujours un petit impact sur la vie de tous. Les familles avec enfants, les enseignants, les grands-parents. Même pour le reste de la société, ne serait-ce que sur les routes, parfois le rythme de travail. Et là encore, une fois, nous nous retrouvons pour ce temps de culte. Pour commencer, je vous propose de faire le point sur quelques annonces. Vous en avez vu quelques-unes défiler là. Pendant que Claude, je laisse venir, je ne sais pas où il est, Claude. Ouais. Je reprends juste quelques points pour commencer pour cette semaine. Tu peux venir. Pour cette semaine, jeudi 29, la rencontre du conseil. Pensez au conseil, à prier pour eux. Il y a beaucoup de travail. Samedi 2 mars, le matin, il y a une rencontre pour les présidents ou éventuels coordinateurs et éventuels futurs présidents, coordinateurs ou personnes qui seraient intéressées. C'est ouvert à tout le monde de 10h à 11h30 pour parler de ce service. Et vous êtes tous les bienvenus. Si jamais vous pouvez vous annoncer, si vous voulez aussi. Dimanche prochain, il y aura le repas communautaire aussi. Pensez-y pour dimanche prochain. Et puis, le parcours Alpha Live, on commence peut-être avec une vidéo, c'est ça? Ouais, alors on regarde une petite vidéo.
Bonjour. Donc, comme vous avez vu dans cette petite vidéo, donc dans le cadre de l'église de l'EM, il sera organisé un cours Alpha Live après Pâques. Donc cette petite présentation de 2 minutes nous donne un peu les raisons de chercher la présence du Christ dans une ambiance constructive et agréable. Ce cours de 12 mercredis, qui commencera dès le mercredi 10 avril, et d'un week-end, n'est pas destiné à proprement parler aux chrétiens convaincus, mais aux personnes qui se posent des questions sur le sens de la vie ou redécouvrir l'œuvre du Christ. Donc ce n'est pas directement pour vous, mais c'est pour vos amis, pour vos parents, connaissances, qui se posent des questions sur l'opportunité aujourd'hui, si c'est encore opportun de croire en Jésus et de la foi chrétienne dans nos vies contemporaines. Vous pouvez, donc on vous annonce déjà, donc c'est pour après Pâques, c'est dans quelques semaines, mais notre souci, c'est que vous ayez le temps aussi de chercher parmi vous et de prier pour voir si vous avez des personnes ou des connaissances qui seraient intéressées à suivre ce cours, à redécouvrir ce que la foi chrétienne peut apporter dans nos vies contemporaines. Alors ce cours aura lieu ici à l'EM, ou éventuellement si c'est un petit groupe chez Zena. Et pour préparer un petit peu ce cours Alpha, pour ceux qui sont intéressés aussi à préparer, donc mardi 5 mars à 20h à l'EM, Emmanuel Veufray, responsable roman du cours Alpha Live, viendra présenter Alpha Live aux personnes intéressées à participer à l'organisation de ce cours. Donc le soir à 20h, nous aurons ici une petite rencontre avec Emmanuel Veufray, et il a invité plusieurs églises aussi à venir ici pour suivre cette préparation. Zena, Thierry Terra et moi-même faisons déjà partie de cette préparation, mais nous avons encore besoin de quelques personnes pour compléter l'effectif. Et vous trouverez aussi à la sortie des flyers d'invitation qui sont à disposition pour que nous les distribuions donc aux personnes que nous sentons appelées à venir faire ce cours. Donc le premier rendez-vous, le mardi 5 mars à 20h, ici à l'EM, avec Emmanuel Veufray. Merci. Voilà le petit flyer, vous le trouverez à la sortie.
Encore une fois, nous nous retrouvons pour un culte, un temps d'arrêt, un temps pour se retrouver soi-même avec Dieu, mais surtout un temps pour se retrouver ensemble avec Dieu et de chercher sa présence tous ensemble. Ensemble, de dire qui il est pour nous, dire qui il est tout court, indépendamment de nous. Dieu est lumière, il est créateur, il est amour, Dieu est saint. Et notamment, il est celui qui vient rejoindre sa création, celui qui nous rejoint chacun dans nos souffrances, celui qui vient habiter notre souffrance par sa présence. Mais aussi celui qui permet de voir au-delà, même si ce n'est pas toujours de l'ordre du miraculeux, que ça prend du temps, que ça fait toujours mal. On arrive au troisième et dernier volet de cette série justement sur la souffrance que Philippe nous propose pour aller plus loin que la souffrance. Et cette souffrance, il n'est pas question d'essayer de la mesurer ou de la comparer, mais il n'est pas question de la mettre de côté non plus, mais plutôt de l'exprimer, et de l'exprimer sans retenue, sans honte. Dieu est prêt à la recevoir, même si on n'a pas l'impression qu'il l'entend, il la reçoit, telle que nous l'exprimons. Et je vais prendre quelques bouts du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi te tiens-tu si loin ? Pourquoi ne me sauves-tu pas ? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Un peu plus loin, je ne suis pas un homme, mais un ver, outragé par les humains, méprisé par le peuple. Et dans le psaume, il y a d'autres images avec des animaux, des lions, des taureaux, des chiens. Il y a des ennemis de toutes sortes, il y a des marques physiques. Il est amaigri, au bord de la tombe, sans force. Et puis ça y va, sans réponse. Sauve-moi d'une mort violente, protège ma vie contre la dent de ces chiens. Délivre-moi de leur gueule de lion et de leur corne de buffle. Oui, tu m'as répondu. Sans expliquer cette transition, quand on lit le psaume, au milieu d'un verset, délivre-moi, oui, tu m'as répondu. Il n'y a même pas une pause. Et je vous invite à prier. Merci Seigneur de nous accueillir tels que nous sommes. Merci pour ton amour qui ne dépend pas de nous, des circonstances. Ton amour qui dure de génération en génération. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu accueilles notre souffrance. Tu nous permets de l'exprimer sans retenue. Et parce qu'au milieu de notre souffrance, on a pu, on pourra dire « Oui, tu m'as répondu ». Que tu nous permettes de vivre ton amour, ta présence, ton pardon, ta délivrance. Que tu nous permettes d'avancer avec toi, que nous puissions faire avancer ton royaume ici-bas, en étant tes témoins, tes ambassadeurs. Alors conduis ce temps de culte, nous te le remettons entre tes mains. Amen. Un petit peu plus loin dans le psaume, après ce « Oui, tu m'as répondu », je parlerai de ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du pauvre. Il ne se détourne pas de lui. Quand celui-ci l'appelle au secours, il l'entend. C'est de toi que viennent mes louanges dans l'assemblée nombreuse. Je m'acquitterai de mes vœux devant ceux qui te craignent. Alors nous pouvons louer Dieu comme le psalmiste, parce que Dieu justement s'est révélé dans toute sa gloire en Jésus, qui est au centre de son message et au cœur de sa création.
Voilà, c'est... Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de pouvoir louer le Seigneur ce matin avec vous, ensemble. On va commencer par le chant « À toi la gloire, ô ressuscité ». Toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le Prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, sans rien garder, je te livre toute ta
avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur, et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Parle-nous, nous venons à toi recevoir le pain, ta parole sainte. Viens, Seigneur, par la vérité, modeler nos cœurs à ta ressemblance, et que ta lumière aujourd'hui rayonne par l'amour, la foi que nous manifestons. Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Apprends-nous à te révérer, à mieux t'obéir, à nous humilier. Par l'éclat de ta pureté, viens sonder, Seigneur, nos voix, nos pensées. Fais grandir la foi, et que nos yeux voient ton amour sublime, ton autorité, tes paroles toujours s'accomplissent, ta vérité chasse l'incrédulité. Parle-nous, renouvelle-nous, viens nous révéler tes plans élevés. Vérité, dès la nuit des temps, dont l'éclat résonne dans l'éternité. Par ta grâce, nous tiendrons sur tes promesses. Par la foi, nous te suivrons pas à pas. Parle-nous, bâtis ton Église et remplis la terre de ta gloire.
Merci pour ce temps. Parle-nous, que le Seigneur nous parle au travers de ce qu'on vit ensemble, au travers de ce qu'on, du message que Philippe nous partagera. Et pour la suite, ben, les potes, vous pouvez rejoindre les groupes avec vos moniteurs. Merci à vos moniteurs. Merci de votre présence à chacun. Que Dieu vous accompagne et vous bénisse durant la suite du culte. Qu'il renouvelle également les moniteurs qui font un travail admirable. Merci. Voilà, je vous laisse descendre. Et... et que Dieu ouvre nos cœurs à sa parole. Philippe, merci.
Bonjour à chacun, à chacune. Jusqu'ici, en évoquant le thème de la souffrance, ce que nous avons fait déjà sur deux dimanches, en évoquant ce thème de la souffrance, nous avons surtout parlé de l'Ancien Testament. Pour explorer les récits de la sagesse et notamment le livre de Job, notamment le livre de l'Ecclésiaste. Et nous avons relevé que le thème de la souffrance est un thème majeur des livres de sagesse. Comme le thème de la souffrance peut être un thème majeur de nos vies, de l'existence. Pas quelque chose que nous cherchons, bien sûr, nous sommes très loin du dolorisme, mais comme quelque chose qui parfois, trop souvent, s'impose à nous. Et j'en veux pour preuve les multiples retours, témoignages que j'ai eus suite à cette série. Plusieurs d'entre vous, vous pourriez venir ici évoquer très concrètement ce que la souffrance a impacté dans vos vies. Et donc, quand on aborde ce thème, on le fait ou on essaye de le faire, non seulement avec pudeur, mais aussi avec un peu de réserve et de nuance, raison pour laquelle ces trois prédications ont toutes été un petit peu plus longues qu'à l'habitude, mais je prends l'engagement pour les dimanches qui viennent de revenir dans un tempo à peu près normal. Je ne sais pas si on peut lancer le premier slide, merci beaucoup. Alors pour ce matin, où nous allons tenter de regarder au-delà de la souffrance, et ça m'a fait tellement bien de préparer cette conclusion, pour ce matin, j'aimerais davantage tenir compte d'une réalité qui est celle du Nouveau Testament. Et à commencer par cette réalité que Paul annonce en 2 Timothée 1, 9 à 10, c'est Dieu qui nous a sauvés et qui nous a appelés à lui appartenir. Non à cause de ce que nous avons fait de bien, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. En théologie réformée, de laquelle nous nous réclamons, on appelle ça le salut par la grâce seule, sola gratia. Nous sommes sauvés, non en vertu de ce qu'on fait de bien, mais en vertu de la grâce seule de Dieu. Et Paul continue, il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ de toute éternité. Il nous l'a fait connaître maintenant par la manifestation de notre Sauveur, Jésus-Christ. C'est lui, le Christ, qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie immortelle. Les anciennes traductions, que nous affectionnons ou pas, disent que Jésus-Christ a mis en évidence la vie et l'immortalité. C'est une petite phrase, hein, dite en passant, mais vous rendez compte la puissance du truc. Le Christ a mis en évidence la vie et l'immortalité. Et je trouve que par rapport à tout ce que nous avons regardé jusqu'à présent, ça change tout. Ça change tout. Le Christ a mis en évidence la vie et l'immortalité. Alors nous l'avons dit, il y a dans l'Ancien Testament bien des tâtonnements, bien des lumières aussi. Quelques textes éblouissants parfois. Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, dit Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. J'espère que ce sera le texte de mes funérailles. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et puis, cela devient beaucoup plus clair dans l'Évangile, que le Rédempteur est vivant. Cela devient beaucoup plus clair avec Jésus-Christ. Et ce matin, nous abordons le problème de la souffrance d'une autre manière. Nous abordons le problème de la souffrance non plus en fonction de sa réalité, bien que, non plus en fonction simplement que Dieu habite la souffrance, mais nous allons regarder au-delà de la souffrance, parce que le Christ a révélé la vie immortelle. Avant de regarder au-delà de la souffrance, j'aimerais évoquer une question que la découverte des livres de sagesse soulève. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est une question sur laquelle j'aimerais rebondir parce que plusieurs d'entre vous me l'avaient plus ou moins posée ces derniers jours. Certains livres de la Bible semblent poser très fortement une équivalence de cause à effet entre la désobéissance à Dieu et le malheur. Si tu désobéis, tu vas te prendre des râteaux. Si tu désobéis à Dieu, le malheur te guette. Mais certains de ces livres de l'Ancien Testament posent aussi une forme d'équivalence entre l'obéissance à Dieu et le malheur. Si tu obéis à Dieu, ça va rouler pour toi. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. C'est vrai ça? C'est embêtant, hein? C'est embêtant parce que c'est dans nos cantiques que nous affectionnons. C'est dans nos Bibles. Dans le livre des psaumes, dans le livre des proverbes, c'est là une forme d'équivalence entre l'obéissance à Dieu et le bonheur, entre la désobéissance à Dieu et le malheur. Mais il faut de la nuance. Il y a 24 heures, un bus conduit par une équipe remarquable de Jem en Tanzanie, où il y a une semaine encore, Rebecca se trouvait. A connu un accident dramatique. Il y a 8 morts dans l'équipe, 8-9 personnes hospitalisées, certaines dans un état catastrophique. Des gens de là-bas, des gens d'ici. Parce que le malheur touche chacun, chacune. Est-ce que ces gens n'aimaient pas Dieu? N'ont-ils pas tout donné? Ne méritent-ils pas le bonheur? Et ces gens qui réussissent à contrario, en trompant, en abusant les autres, en exerçant un pouvoir corrompu et qui réussissent apparemment, comment ça marche? Y a-t-il une équivalence systématique entre la désobéissance à Dieu et le malheur ou entre l'obéissance à Dieu et le bonheur? Ce n'est pas seulement dans un cantique évangélique, c'est dans les psaumes. C'est très clair pour le peuple de Dieu dans le livre du Deutéronome. C'est tout à fait le propos du livre des Proverbes. Tant et si bien que la tradition rabbinique voit le livre de Job comme une protestation contre le livre des Proverbes et contre le Deutéronome. Il faut donc distinguer, mes amis, entre la règle générale et les cas particuliers. Le livre des Proverbes, c'est un recueil de sagesse. Il nous amène, ce livre, à poser une certaine ligne de conduite dans la vie. Mais les proverbes ne donnent pas de règles absolues comme le fera la loi. Proverbe est même capable de donner deux conseils contradictoires dans deux versets qui se suivent. Proverbe 26, 4 à 5. « Ne réponds pas au sot selon sa sottise, tu finiras par lui ressembler. » Verset suivant. « Réponds au sot selon sa sottise, sinon il te prendra pour un sage. » Lequel est inspiré ? Lequel est juste ? Je garde lequel ? Quand je suis en face d'un sot, je garde lequel ? Je lui réponds ou je ne lui réponds pas ? Il faut distinguer la règle générale des cas particuliers. Les deux conseils dans le livre des Proverbes sont justes. C'est à nous de déterminer à quel moment on appliquera l'un ou l'autre à telle ou telle situation. Mais nous devons faire attention, en particulier quand nous lisons l'Ancien Testament, à l'application de règles générales. De la même manière, les promesses qui lient le bonheur à l'obéissance sont justes. Je crois qu'on ne peut pas être plus heureux qu'en marchant avec Dieu. Et puis, il va y avoir des cas où la règle générale ne s'applique pas. Ces promesses ne sont pas là pour nous enfermer dans un schéma contraignant. Elles sont là pour nous mettre sur la bonne piste pour la vie, c'est-à-dire, il y a du bonheur à vivre selon Dieu. C'est la règle générale. Mais, quand la fidélité à Dieu n'est pas récompensée dans cette vie, ça nous pose des problèmes. La contradiction entre ce qui est juste et ce qui se passe réellement nous pousse en fait à attendre une justice qui ne vient pas encore. Une justice qui est encore à venir. C'est cette vertu cardinale de l'espérance. Nous attendons quelque chose de meilleur. L'Ecclésiaste, nous l'avions dit, sait qu'elle ne se produira pas forcément dans cette vie-ci, la justice. Mais l'auteur sait aussi que Dieu jugera toute œuvre, même celle qui a été faite en cachette, les bonnes et les mauvaises. Ecclésias 12, verset 14. Quand est-ce que Dieu jugera toute œuvre ? Quand est-ce que le tri se fera ? L'Ecclésias ne le dit pas. Mais il nous pousse à attendre que Dieu juge toute chose. C'est au cœur de notre foi chrétienne. Nous attendons la justice de Dieu. Il y a du déjà et il y a du pas encore. Et dans le Nouveau Testament, alors, je mentionne d'abord un exemple que vous connaissez tous et toutes très bien, c'est la vie de l'apôtre Paul. Voilà un serviteur de Dieu remarquable, un gars comme ça, et pourtant marqué par la souffrance. Pas seulement par cette écharde dans la chair qui nous aide à comprendre que nos prières pour la délivrance ne seront pas toutes exaucées, mais surtout par des souffrances qui sont directement liées à son ministère, à sa foi, à son engagement, des souffrances concrètes de la vie de tous les jours. À titre d'exemple, je cite Paul. « 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid, le manque d'habits. Et sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. En effet, Qui est faible sans que je sois faible? Qui tombe sans que cela ne me brûle? Oui, s'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. On est très loin ici de l'évangile de la prospérité. On est à des années-lumière de cette idée qui nous ferait croire que si nous obéissons à Dieu, et Paul le faisait, nous serons bénis matériellement. Paul a souffert parce qu'il a fait la volonté de Dieu, pas parce qu'il était dans la désobéissance ou le manque de foi. Il a souffert en raison même de son attachement à Dieu. Puis on pourrait citer les héros de la foi en Hébreux 11. Pour les uns, la foi se voyait de façon absolument évidente dans la réussite et la victoire. Et pour les autres, la foi se voyait dans la résistance à l'épreuve et jusque dans la mort. Hébreux 11, 37 à 39. Les héros de la foi mentionnés en Hébreux 11, n'ont pas tous vu la réalisation des promesses de Dieu. L'auteur dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et saluées de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. » On est très loin d'un évangile de la prospérité. Je dois encore évoquer avec vous un texte qui semble dire que par la foi, on va être délivré de l'épreuve, ou en tout cas, de l'épreuve de la maladie. C'est Jacques 5, versets 14 à 16. L'un de vous est-il malade? Qu'on appelle les anciens de l'Église, ceux-ci prieront pour lui et ils feront une onction d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Une telle prière, faite avec foi, sauvera la personne malade. Le Seigneur la remettra debout et, si elle a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Reconnaissez donc vos péchés les uns envers les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. De nombreuses personnes, dont je suis, trouvent dans ce passage un encouragement à la prière, un encouragement à la foi. Et c'est certainement dans ce but premier que l'apôtre Jacques l'a écrit. Nous encourager à la prière, nous encourager à la foi. Puis en même temps, je dois vous dire honnêtement, les amis, que ce passage-là me trouble profondément. Parce que les chrétiens et les chrétiennes qui prient avec foi ne voient pas toujours leurs malades guérir. Il y a des années, quand j'étais au début de mon ministère de pasteur, j'ai rencontré un pasteur qui n'acceptait pas la mort d'un enfant. Et il l'a gardé dans l'église pour prier pour que cet enfant ressuscite. C'était à Ambilly. Au bout de quelques jours, la situation s'est évidemment dégradée. Il a été arrêté et sévèrement condamné par la justice pour pratique illégale de la médecine. Compliqué ce texte. Alors je sais que pour sortir de la difficulté, il y a quelques astuces. On va dire par exemple, je l'entends beaucoup, que le verbe grec qui est employé ici, c'est le verbe sozo, verset 15, peut signifier dans le grec à la fois sauver et guérir. Alors, quand on a un mot qui a plusieurs sens, c'est le contexte qui va être déterminant. Et le contexte, au verset 15, ben c'est que le Seigneur relèvera le malade Et dans le verset 6, nous sommes invités à prier pour la guérison. Il n'y a donc pas d'ambiguïté. Le contexte, c'est la guérison. Ce n'est pas le fait que l'âme soit sauvée. Il ne faut pas esquiver la difficulté en disant qu'un malade, même décédé, va être sauvé ou que c'est son âme qui a été guérie. Ça, c'est de la triche, c'est être infidèle au texte. Le texte, dans son contexte, est très clair. On parle d'un relèvement physique. Une autre astuce que je trouve assez injuste et que j'entends régulièrement, hélas, c'est cette astuce qui consiste à dire que le malade ou ses proches, parfois les deux, ont manqué de foi. Et il n'y a rien de mieux ou de pire pour plonger les gens dans la culpabilité pendant des années. La guérison en réponse à la foi. Il est vrai que Jésus dit parfois qu'il te soit fait selon ta foi. Mais en même temps, Jésus opère de nombreuses guérisons là où la foi de la personne ou de ses proches est une foi proche de zéro. Jaïrus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ce n'est pas de la foi triomphante, ça. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais je ne crois pas. T'arrives à dealer avec ça, Seigneur ? Et Jésus va ressusciter sa fille. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas la puissance de la foi qui délivre. C'est la puissance de Dieu. Je le redis. Ce n'est pas la puissance de ta foi qui te délivre. C'est la puissance du Dieu dans lequel tu crois. Je vous propose donc une approche qui s'inspire à quelque part de la prière de Jésus à Gethsémané. Est-ce qu'on pourrait dire que Jésus a manqué de foi ? Vous seriez à l'aise, vous, avec cette idée ? Est-ce qu'il a manqué de foi quand il a dit « Père, que cette coupe s'éloigne de moi, je ne veux pas y aller ». Est-ce qu'il a manqué de foi ? Ben, je ne pense pas. Je pense même que Jésus, là, a prié avec ferveur, avec angoisse, avec foi, comme le psalmiste du psaume 22. Mais encore une fois, sa foi n'était pas dans la force de sa prière. C'était une foi inébranlable en son Père. Et c'est très différent. Moi, je n'ai pas foi en la prière. C'est mystérieux, la prière. Mais j'ai foi en celui en qui je prie. Et c'est ainsi dans la foi que Jésus lui-même a prié, non pas ma volonté, mais la tienne. Pas ce que je veux moi, mais toi, Dieu. Dieu qui dit à Dieu, c'est juste dingue, hein. Pas ce que je veux, mais toi. Prier ainsi, ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas de la résignation. Ce n'est pas une sorte de tambouille interne tiédasse. C'est un engagement. C'est un engagement qui a conduit Jésus à la croix, où la volonté du Père s'est accomplie pour le salut du monde. Ça, c'est un engagement. La promesse de Jacques 5, comme d'autres promesses bibliques qui concernent la prière, cette promesse de Jacques 5, elle est donc à lire à la lumière de la prière de Jésus. C'est une promesse dite sous une forme absolue, Dieu relèvera le malade, mais elle sous-entend que la souveraineté de Dieu passe avant nos désirs, avant nos souhaits, avant nos convictions même. Moi, je peux être convaincu que Dieu va guérir quelqu'un et Dieu, dans sa souveraineté, choisit de faire autrement. Je peux être convaincu que la cause est perdue et Dieu, dans sa souveraineté, fait autrement. Ce n'est pas ma volonté qui compte, c'est la force de Dieu. Je termine donc cette partie en portant notre regard sur notre Seigneur Jésus-Christ, homme de douleur, serviteur souffrant de l'Éternel, mais il reste notre modèle dans la prière. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Il est en mesure de secourir ceux qui sont tentés, étant passé lui-même par le même chemin. Il n'y a aucune tentation que je connaisse que Jésus n'a pas connue. Je sais que c'est un peu gênant, suivant à quoi on réfléchit, mais c'est comme ça, c'est écrit. Sinon, il ne peut pas me secourir. Sinon, je change de crèmerie. Si Jésus ne peut pas me secourir dans ce que je connais, moi, comme difficulté, c'est qu'il ne les a pas connus. Et s'il ne les a pas connus, je change de crèmerie. Hébreux 5.8, il a fait l'apprentissage de l'obéissance et de la soumission à la volonté de son Père au travers de la souffrance. Et comme le serviteur n'est pas plus grand que son maître, moi je ne pourrais pas faire autrement. Il s'est heurté comme Job à l'incompréhension de ses amis, de ses plus proches. Il a ressenti la séparation d'avec Dieu en subissant le châtiment qui expie le péché. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et après sa mort et sa résurrection, Jean 17 nous dit qu'il a été pleinement restauré dans sa condition première et glorieuse. Mais d'abord la souffrance. Dans notre incompréhension, dans nos pourquoi, dans nos révoltes même, je crois qu'il nous faut le contempler. Le Seigneur, et nous nourrir de ce qu'il a dit et fait, notre grand Sauveur. Voilà, la personne qui souffre, elle a envie que ça s'arrête. Moi, quand j'ai un rhume, je veux que ça finisse vite. Mais ça, c'est rien. La personne qui souffre réellement, elle veut que ça s'arrête. Elle veut que le médecin trouve un remède ou que Dieu fasse un miracle. Elle veut que son chef soit muté, que son CV soit enfin retenu, que le fils ou la fille prodigue revienne à la maison. Réponse à la prière par les voies ordinaires de la vie sur terre ou miracle d'en haut. La délivrance, elle est possible. La délivrance, elle arrive, mais pas toujours. Comment vivre concrètement avec une souffrance qui ne s'en va pas ? L'apôtre Paul, il a vu des gens gravement malades se lever à sa seule parole ou par le seul fait de toucher son vêtement. Mais quand il était lui-même tourmenté, par ce qui semble avoir été un sérieux problème de santé. Il a prié 3 fois sans résultat. Et là, il a appris une leçon essentielle de sa vie. C'est que la force de Dieu se manifeste aussi dans la faiblesse. Il a compris que la grâce de Dieu suffit, que la guérison n'est pas tout, que la guérison n'est pas le but de la relation avec Dieu, mais que la grâce l'accompagne dans ce qu'il vit. Ce que je nous invite à faire ce matin, c'est de regarder au-delà de la souffrance. Comme dit, j'essaie de le faire avec pudeur, car souvent pour la personne qui souffre, il n'y a pas de perspective autre que l'instant présent. L'intensité de certaines souffrances concentre toute l'attention sur ce qui ne va pas, nous sommes incapables de voir autre chose. Comment parler du ciel à une mère qui vient de perdre un petit garçon de 2 ans ? C'est indécent. C'est indécent. Et pourtant, la Bible nous aide à regarder au-delà de la douleur, au-delà de la souffrance et de l'angoisse immédiate. Pour comprendre alors comment Dieu se sert de la souffrance pour nous inviter à tourner nos regards vers lui, à le contempler, pour attendre autre chose lorsque Christ reviendra ou lorsqu'il nous appellera à lui. La souffrance, elle aura une fin, mes amis. La souffrance, elle aura une fin. Parce que le Christ à la croix a réconcilié avec Dieu la création matérielle et immatérielle, le monde visible et invisible. toutes choses auront part au renouvellement, dit Jésus en Matthieu 19, 28. La création aura part à la rédemption des enfants de Dieu. Terre et le ciel actuel, renouvelés, transformés, ils passeront par une sorte de nouvelle naissance, une résurrection. L'Apocalypse, elle célèbre la victoire finale du royaume de Dieu sur le royaume des ténèbres. La victoire de la croix se trouvera parachevée lors de l'instauration des nouveaux cieux et de la nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre 3,13. L'heure viendra où toutes les promesses messianiques faites depuis Abraham, en passant par David, en aboutissant à Jésus, trouveront leur accomplissement définitif. Et c'est là une perspective glorieuse. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Notre corps, si fragile, si abîmé, notre corps ne sera plus assujetti au régime de la corruption, de la maladie, de la souffrance, du vieillissement, de la mort. Romains 8, verset 21, l'environnement ne souffrira plus des conséquences de la chute et de la malédiction, parmi lesquelles notre propre comportement dans l'environnement. À un moment donné, il n'y aura plus de pollution, ni de dégradation, ni de crise climatique. Nous serons au-delà de la souffrance et de ses contraintes. Plus de catastrophes naturelles, plus d'inondations, plus de tremblements de terre, plus de sécheresses, plus de famines. L'ordre et l'harmonie parfaites, complètement restaurées. Il ne se fera ni tort ni dommage sur la montagne sainte de l'Éternel. La connaissance de l'Éternel remplira la terre. Ésaïe 11, 6 à 9. Dans le royaume de Dieu, pleinement accompli, la réalité dépassera la fiction. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul laisse entrevoir cet avenir glorieux. Il soulève un coin du voile. La détresse que nous éprouvons est passagère et légère. Mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire éternelle. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure pour toujours. Nous comptons donc fermement sur la fin de la souffrance. Si par la mort, Christ nous prend pour être avec lui dans le paradis. Nous dirons avec l'apôtre Paul, être avec le Christ, c'est de loin le meilleur. Que ce soit là ou à son retour, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, dit 1 Jean 3,2. Alors, qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Et j'ajoute à la liste de l'apôtre Paul, qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ ? Le cancer ? Ou le chômage ? Ou des fanatiques qui débarquent dans une église nigériane avec leur kalachnikov ? Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Christ ? Puis je reprends avec Paul. Dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je conclus. Dans un livre de Pierre Jacques Elias, c'est un auteur breton, j'ai découvert un petit jeu assez fascinant. Il y a un personnage qui s'appelle le Vent du Soleil. Et ce personnage s'arrange pour faire du détournement de proverbes. Si vous aimez les bons mots, c'est un régal. Par exemple, le personnage, quand il détourne les proverbes, ne dit pas « qui veut aller loin ménage sa monture », mais dit « qui veut aller loin change souvent de monture ». Détournement de proverbes. Ben, j'aimerais me livrer à ce petit exercice en conclusion. Vous vous rappelez peut-être, j'espère, que dans le livre de Job, Eliphaz dit cette phrase renversante. L'homme naît pour souffrir comme les étincelles pour voler. Job 25, verset 7. L'homme naît pour souffrir comme les étincelles pour voler. Honnêtement, c'est insupportable. C'est insupportable. Et il me semble que cette vérité insupportable, Jésus-Christ est venu la transcender. Il a revisité le proverbe et c'est ce que je veux faire avec vous, le revisiter. L'homme naît pour guérir, comme les étincelles pour voler. Pas pour souffrir, pour guérir, à cause de Jésus. Je ne sais pas si nous volerons. Je crois, mais enfin voilà, je ne le sais pas. Je ne sais pas si on va voler. Mais à coup sûr, nous guérirons. Nous serons restaurés. Lorsque le Christ nous appellera à lui, ou lorsqu'il reviendra, nous guérirons. Amen.
Je lis dans Romains 12:2, ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. En Ézéchiel 36:26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de vous, de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi soit-il. Amen.
Transforme-nous pour ton royaume. Devant toi, genoux, nous te chantons un psaume. Change nos vies et nos envies. Rends nos cœurs humbles, nos bonheurs simples. Et change mon cœur gravé de pierre contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi ton œuvre, Père, et change mon cœur gravé de pierre contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi ton œuvre, Père. Transforme-nous pour ton royaume. Devant toi, à genoux, nous te chantons un psaume. Change nos vies et nos envies. Rends nos cœurs humbles, nos bonheurs saints. Et change mon cœur gravé de pierre contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi ton œuvre, Père, et change mon cœur gravé de pierre contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi ton œuvre, Père. Éclaire ce cœur gravé de pierre contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi ton œuvre, Père.
Nous prenons encore un temps pour la scène. Cette souffrance, on traverse tous à différents niveaux, elle aura une fin. Et comme le psalmiste et comme Jésus sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas ?» C'est les paroles du Christ aussi, qui a vécu cet abandon, cette souffrance, pour venir nous rejoindre. Il connaît nos souffrances. Et il nous donne vie. Et il nous permet de nous réconcilier avec le Père. Nous allons vivre ce temps et partager ce pain, ce vin, comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Lors du repas de la Pâque, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. C'est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. » Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. Merci Seigneur parce que tu n'as pas renoncé devant la souffrance. Tu n'as pas choisi la facilité. Tu es allé jusqu'au bout. Tu as donné ta vie, tu as été méprisé, abandonné. Tu es mort. Pour moi, pour nous. Et tu es ressuscité, car la mort n'a pas pu te retenir. Et merci parce qu'aujourd'hui encore, ton sacrifice est valable et nous pouvons en bénéficier de manière imméritée. Alors que tu viennes habiter ce temps de partage, ce temps de scène par ton esprit. Amen. Les quelques personnes que j'ai sollicitées, si vous pouvez vous avancer, nous allons distribuer Comme d'habitude, au centre, c'est les gobelets de couleur du jus de raisin et autour du vin. Nous invitons à vous recueillir pendant ce temps et si vous désirez prier à haute voix, n'hésitez pas à le faire. Il y a la coupe aussi, faites signe si vous désirez communier avec la coupe. Seigneur Dieu, tu es l'agneau du Christ ressuscité. Agneau de Dieu, tu règnes dans le ciel, que tu viennes régner dans nos vies. Nous voulons te louer et t'adorer et nous associer aux anges qui te rendent gloire dans le ciel. Amen.
Avant de chanter à l'agneau de Dieu, il y a peut-être des personnes qui sont nouveaux dans la foi. On voulait juste expliquer deux termes. L'agneau de Dieu, donc c'est Jésus. C'est Jésus-Christ, car dans l'Ancien Testament, on sacrifiait des animaux pour que les péchés soient pardonnés. Et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui s'est sacrifié comme un agneau pour nous sauver. Et le deuxième terme, c'est l'épouse de Christ, qui est en fait l'Église, c'est l'ensemble des croyants. Et en attendant son retour, nous devons lui rester fidèles. Et quand il reviendra, nous célébrerons les noces et nous serons unis éternellement au Christ. Alors chantons à l'agneau de Dieu. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, sois l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur avec les milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu,
la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen.
Car le malheureux qui est accablé, il ne l'a pas méprisé, il ne l'a pas rejeté, il ne s'est pas détourné de lui. Il a entendu son appel. On parlera du Seigneur à la nouvelle génération. On racontera à ceux qui vont naître ce que Dieu a fait dans sa justice. Qu'on puisse vivre cela au cours de cette journée et de cette semaine qui vient. Dieu nous envoie, Dieu nous accompagne et qu'il soit avec nous, chacun de vous. Alors, bonne suite de dimanche. Soyez bénis et renouvelés.